Bonjour Eli Cohen.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur au CNRS. Comment se porte la croissance mondiale en ce début d'année 2018, Eli Cohen ?
Eh bien, fort bien. Pour la première fois depuis très très longtemps, ce sont toutes les zones économiques mondiales qui croissent en même temps. Au cours des 10 dernières années, quand les pays émergents allaient bien, les pays développés n'allaient pas bien. Quand les pays développés allaient bien, au sein même des pays développés, la zone euro allait moins bien que les États-Unis. Pour la première fois depuis 10 ans, les eaux montent partout et c'est la croissance mondiale qui est repartie de l'avant.
Est-ce qu'on est donc sorti pour de bon de cette décennie de crise ?
Oui, je crois qu'on peut dire que la décennie de crise est maintenant derrière nous. Il y en a plusieurs manifestations. Par exemple, il y a quelques années, on avait assisté à un net ralentissement du commerce mondial. Et on s'était demandé si on n'était pas en train de vivre un épisode de démondialisation. Et on se posait gravement des questions sur le tarissement des flux de matières premières en particulier. Eh bien, tout ça est derrière nous. La dynamique est repartie de l'avant partout. Le super cycle de matières premières, c'est-à-dire cette période où la croissance du commerce des matières premières tirait l'économie mondiale et la faisait croître plus de 5%, est à nouveau devant nous puisque on va faire 3,6% de croissance mondiale là et on assiste à une accélération de la croissance mondiale et le commerce international qui progressait un peu en dessous du PIB mondial, s'est remis à croître plus vite que le PIB mondial.
C'est d'une croissance solide ou est-ce qu'elle est encore menacée ? Est-ce qu'il faut y faire attention ?
Ah non, non. Si vous interrogez un économiste, il vous dira toujours qu'il y a des risques. Et quand on regarde, il y a les risques géopolitiques, risques de refaire partir en avant la tension sur les matières premières et notamment les matières premières énergétiques. Il y a les tensions liées au surendettement chinois. Les Chinois ont passé cette décennie en accroissant considérablement la dette des ménages, des entreprises, des collectivités territoriales. Et donc, on se pose des questions sur l'avenir de la dette. En plus, nous avons vécu dans les pays développés avec des taux d'intérêt proches de zéro. On se dit, qu'est-ce qui se passera le jour où les taux d'intérêt repartiront de l'avant ? Donc, vous voyez, on a toujours des inquiétudes. Et puis, surtout, pendant ces 10 dernières années, comme il y avait des liquidités très, très abondantes, tous les marchés d'actifs sont montés, les marchés immobiliers, les marchés actions. On se dit, qu'est-ce qui se passe si, de nouveau, les taux repartant de l'avant et la surévaluation des actifs, notamment ceux de la nouvelle économie, donnaient des signes de faiblesse, qu'est-ce qui se passerait ? Parce que la hausse des marchés, ça crée un effet de richesse qui stimule la consommation. Donc, c'est pas simplement l'effet direct que procurerait un mini crack ou un grand crack. C'est l'impact que ça a sur l'économie réelle, crise d'inquiété. Donc, les économistes sont toujours inquiets.
En 2007, vous estimiez que c'est cette crise que nous avons traversée donc pendant 10 ans au niveau mondial, comme toutes celles que traverse le capitalisme, permettait un retour aux fondamentaux économiques et qu'en ce sens, elle était bonne. Avec le recul, avec 10 ans de recul, est-ce que vous partagez toujours cette analyse ?
Les fondamentaux économiques, on les a vus se manifester au cours des 10 dernières années. La Chine est devenue la première économie mondiale en termes réels, c'est-à-dire en termes de parité de pouvoir d'achat. La révolution technologique qu'on annonçait maintenant produit ses effets manifestes. Tout le monde est en train de parler de la révolution du travail, de l'impact de l'intelligence artificielle et de la robotique.
Mais est-ce que, puisque cette crise qui était financière à la base, c'était la crise qu'on avait appelée des subprimes, est-ce que la régulation de l'économie mondiale s'en est trouvée renforcée ?
Si vous regardez ce qui a été fait en matière de régulation bancaire, on n'a jamais poussé aussi loin les régulations et notamment aujourd'hui, d'ailleurs la manifestation la plus claire, c'est qu'il y a un véritable effondrement des rentabilités bancaires parce que on a mis des couches supplémentaires de protection pour chaque type de risque. Et alors la vraie question, c'est est-ce qu'on est allé trop loin du côté bancaire dans la régulation et est-ce qu'on n'est pas allé assez loin dans le fait que malgré tout, on a maintenu dans les mêmes entités des activités casino et des activités de service public. Si vous voulez, la gestion des moyens de paiement, c'est un quasi-service public. Par contre, l'achat de produits dérivés ou la spéculation sur les produits dérivés, ça, c'est de l'économie casino. Donc, est-ce qu'en ne séparant pas franchement ce qui relève de l'économie casino de ce qui relève de l'économie de service public, on n'a pas pris un risque pour la crise future ? Ça, cette question reste posée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas de consensus pour casser les grandes banques et séparer les activités à risque des activités plus traditionnelles.
Alors, on va parler un petit peu de l'actualité française. Que pensez-vous des premières actions économiques entreprises par le gouvernement Philippe Macron ? les premières réformes?
Ah ben, je crois que, si vous voulez, la réforme du marché du travail en France, qui était la liste, sur la liste des réformes de l'OCDE, du FMI, de la Banque centrale, tout à fait en tête, eh bien, le fait qu'on se soit attaqué à ce problème, certains diront très modérément, est la preuve quand même qu'on essaye de rentrer dans cette logique de réforme structurelle du marché du travail et du marché des biens pour libérer le potentiel de croissance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, comme on semble vouloir le faire en 2018, on est, semble-t-il, armé pour s'attaquer à la question de la dépense publique. Vous savez qu'on est les champions du monde de la dépense publique et notamment de la dépense socialisée. Donc là, le gouvernement actuel a l'intention de lancer le chantier dans ce domaine-là. Et puis troisièmement, je dirais, l'un des points qui est pointé par tous les rapports internationaux, c'est le vrai problème que nous avons en matière de compétences, en matière de formation et en matière de qualité de notre système éducatif. Eh bien, le fait qu'on se soit attaqué également à ce sujet, avec ce qui est fait sur l'éducation et ce qui va être fait cette année sur la formation, montre en tout cas qu'on est conscient des problèmes et qu'on veut commencer à s'y attaquer.
Il y a un point qui a fait polémique, c'est même été la dernière polémique de 2017. Le gouvernement envisage de renforcer le contrôle des chômeurs. Qu'en pensez-vous ?
Si vous voulez, je trouve que dans une logique de flexisécurité, c'est-à-dire dans un système dans lequel on a une plus grande flexibilité du marché du travail et en même temps, on a une prise en charge du chômeur pour l'accompagner dans ses démarches, pour le former, pour le réinsérer, pour
l'indemniser correctement. Ils ont cotisé, ces chômeurs, on ne leur fait pas l'aumône.
Mais il n'est pas question de faire l'aumône. Simplement, je vous signale que globalement, le système de chômage est très massivement déficitaire, 4 milliards par an, avec une dette accumulée de 30 milliards, que c'est l'État qui garantit cette dette et que donc les partenaires sociaux n'ont pas jusqu'ici pris leur véritable responsabilité qui était de gérer un système en équilibre.
Et tout de même, si on regarde les chiffres, la fraude à Pôle emploi estimée en 2013 représentait 58 millions d'euros. Dans le même temps, la fraude fiscale représente entre 60 et 80 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne se trompe pas de cible ?
Bon, d'abord, ce qui a été fait en matière de lutte contre la fraude fiscale est déjà particulièrement patent. Vous avez vu les recettes fiscales inespérées qui ont permis de boucler beaucoup de budgets avec la politique qui a été mise en place de la cellule de dégrisement. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pour ce qui est de la fraude sur les indemnités de chômage, je suis d'accord avec vous, c'est très mineur. Raison de plus pour travailler dans un bon climat de confiance et pour avoir comme objectif essentiel la réinsertion sur le marché du travail avec une stratégie d'accompagnement dynamique qui comporte plusieurs volets, un volet indemnisation, mais également un volet accompagnement personnel et un volet formation.
Dernière question, il nous reste une minute. On l'a compris, la croissance mondiale repart un peu partout dans le monde, mais dans le même temps, les écarts de richesse se creusent. Comment faire adhérer la population à un modèle économique dont elle ne bénéficie parfois qu'à la marge ?
Bon, d'abord, il ne vous a pas échappé que globalement, les inégalités régressent au niveau mondial et n'augmentent pas. Pour une raison très simple.
C'est pas ce que dit le FMI, mais voilà.
Non, mais ici, c'est ce que dit le FMI. Il y a deux types d'inégalités. Il y a les inégalités entre nations et les inégalités au sein des nations. Mmh. Les inégalités entre nations reculent nettement pour une raison très simple. Il vous a pas échappé que la Chine a émergé, que l'Inde a émergé, que globalement, les inégalités ont reculé. Ceci dit, ceci s'accompagne d'un creusement des inégalités au niveau national. Mais pour ça, il y a des politiques redistributrices qui ne sont pas toujours menées avec efficacité.